Bonjour.
Vous êtes née gourmande, la cuisine, ça a toujours fait partie de votre vie?
Alors oui, toujours, oui. Plutôt la cuisine que la pâtisserie, en fait, pour être honnête au départ.
Au départ, ouais. Comment l'amour de la pâtisserie, il est venu?
Tout à fait par hasard, en fait, j'ai fait une formation d'école hôtelière en France et puis je me suis dit, bon ben pour être un petit peu plus complète en fait et avoir plus de cordes à mon arc, je me suis dit je vais faire une formation de pâtisserie, comme ça je pourrais savoir un petit peu tout faire. Et ça a été le coup de foudre.
La révélation.
Ah ouais, complètement, ouais.
Et cet amour que vous avez pour la pâtisserie, vous l'avez autant pour le goût que pour l'aspect visuel?
Oui, oui. Complètement. Je trouve que ça va de pair. On mange d'abord avec les yeux. Si quelque chose vous attire par le regard, vous aurez envie de le déguster, vous aurez envie de le goûter. Si ça vous plaît moins, généralement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Hein, mais...
Ça fait moins envie.
Oui.
Ça, c'est vrai. Vos formations, votre parcours, ça a aussi passé par des notions de diététique, de micronutrition, de santé. Santé, plaisir, humeur, tout est lié quand on parle de manger.
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, je m'en rends compte. Avant les formations, je m'étais pas rendu compte, en fait, à ce point-là. Donc, c'était vraiment à la base, la nourriture, la pâtisserie, ce qui me plaisait. Et puis, finalement, avec ces formations, je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, de quoi sont composés les aliments. Et puis, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on consomme va impacter sur notre comportement, sur notre humeur, va nous constituer.
On parle de l'intestin comme le deuxième cerveau?
Oui, j'aime bien dire que c'est même le premier.
C'est plutôt le premier.
Ouais, ouais.
Et puis les douceurs, finalement, voilà, on en a tous besoin. C'est quelque chose de réconfortant, ça fait du bien au moral. Que ce qu'on soit intolérant à certains aliments ou pas, c'est vraiment ça qui est un peu le point de départ de ce livre.
Oui, je pense que en tout cas pour moi, la pâtisserie, c'est vraiment les douceurs en général. C'est des moments, je dirais, qu'on s'octroie de plaisir. Alors souvent, ça va être un réconfort, ou même on peut le voir dans la société. On va, par exemple, fêter un anniversaire, s'acheter un petit gâteau, parce que c'est la fin de la journée, puis on a envie de se faire plaisir. C'est souvent lié à un plaisir qu'on veut s'offrir ou partager avec des personnes qu'on aime, finalement.
Alors, avec ce livre, on regardera quelques-unes des recettes tout à l'heure. Vous partagez votre expérience parce que ça fait longtemps que vous cherchez à faire plaisir sans gluten, sans lactose. La difficulté principale, c'est quoi? C'est de retrouver des textures qui soient proches de celles plus traditionnelles, le goût, la présentation. C'est où se situe la difficulté, selon vous?
Alors, c'est clairement la texture au départ. En tout cas, pour certains produits, comme quand c'est... comme le pain ou tout ce qui va être à base de farine, je dirais au départ classique, qui devrait ressembler à de la farine où on a du gluten, c'est là où on va trouver des difficultés à avoir du moelleux et d'élasticité au départ. Et puis, bon, ben, y a des petites combines quand même.
Alors, vous proposez des recettes sans gluten, sans lactose, on l'a dit, mais avec ce que vous appelez des super aliments. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de ces super aliments?
Alors oui, alors c'est vrai que les super aliments, je pense qu'on en consomme sans même le savoir. Par exemple, le curcuma, le gingembre, le café aussi, qui est quand même considéré comme un super aliment. Alors il y a aussi le maca. Enfin, il y a énormément de produits, les fruits rouges. Bon là, c'est pas la saison, hein, clairement, mais il y a beaucoup de produits qu'on consomme et finalement, c'est même pas que c'est des super aliments. Les super aliments, c'est quelque chose qui va impacter sur nous et qui va avoir un bienfait en fait.
Pour rester un petit peu dans ces intolérances, est-ce qu'il y a au départ une peur ou une frustration de ne pas utiliser les aliments basiques qu'on utiliserait en pâtisserie?
Une peur, je sais pas. C'est vrai qu'il y a différents produits que, évidemment, pour les personnes qui sont intolérantes, on peut plus utiliser du tout. Et puis... je dirais que moi, je ne suis pas intolérante. Donc, l'avantage était que je puisse comparer le résultat, en fait. Et il y a plein de produits, aujourd'hui, quand même, qu'on peut trouver qui peuvent substituer au gluten.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, faire de la pâtisserie sans lactose, sans gluten, ça peut correspondre au grand public, même si on n'est pas intolérant. Ça peut également nous faire du bien de manger des pâtisseries faites de cette façon-là ?
Alors pour moi, oui, parce que l'idée de faire un livre aussi sans gluten, sans lactose, n'était pas ciblée au départ pour les intolérants. L'idée, c'était vraiment de faire des gourmandises au tout départ, hein, qui soient accessibles à tout le monde. Et pas seulement pour les personnes qui n'ont pas d'intolérance. Comme ça, au moins, si vous êtes intolérant, ben, vous pouvez le manger. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le manger.
Alors, Anita, pour cuisiner sans gluten, sans lactose, quels sont les produits de substitution qu'il faut absolument avoir chez soi ? Un petit mélange de quelques farines, quelques produits qui sont indispensables pour se lancer ?
Alors, l'avantage, c'est que maintenant aussi, on en trouve dans différents endroits, on en trouve vraiment beaucoup plus qu'avant. Il y a tout ce qui est farine de riz, fécule de pommes de terre, de maïs aussi pour ceux qui peuvent, parce qu'il y a certaines personnes qui sont intolérantes, qui ont du mal aussi à digérer le maïs. Il y a tout ce qui est farine de châtaigne, sarrasin, il y a quand même pas mal de produits, dont notamment la gomme de goire, qui quand même est assez connue maintenant. Et puis, alors moi, j'aime bien le kouzou, qui permet de lier, d'apporter une élasticité, ça c'est assez intéressant.
Ça se trouve où, le kouzou ?
Alors, dans tous les petits, toutes les épiceries bio, on le trouve maintenant très facilement, ouais, ou sur Internet éventuellement. Qu'est-ce que je prends aussi ? Bah, tous les produits sans lactose également. Voilà, en gros, c'est... Et la fécule.
Beaucoup c'est de... magique.
Ouais, beaucoup de fécule. Alors, on peut les changer. Et puis, il y a aussi la farine de coco, qui est très sympa. Je prends aussi différents sucres, parce que les super aliments, c'est aussi l'idée de mettre des bons sucres, hein. Et de pas forcément mettre du sucre blanc, de préférence. Ouais. Donc là aussi, on trouve vraiment beaucoup de choses dans les grandes surfaces. Hein.
Alors, avant de se mettre au fourneau, faut commencer par faire les courses. Donc, pas mal de ces farines, on va les trouver dans les grandes surfaces aujourd'hui. Les super aliments, ils sont aussi en grande surface ou il faut aller chercher un peu plus loin ?
Alors, les deux.
Mon capitaine.
Les deux. Alors, j'ai trouvé dans une grande surface particulièrement, non, même dans plusieurs, où on trouve maintenant des super aliments vraiment accessibles. Ça, je trouve ça super. Et dans les magasins spécialisés aussi, on trouve... assez facilement maintenant, et puis également sur Internet ou certaines petites épiceries, on peut trouver aussi pas mal de choses. Donc tu peux fouiner de temps en temps.
Et dans votre livre, Les recettes du bonheur, vous nous proposez de tester le maca, le xylitol. Alors c'est un petit peu des noms barbares qui effraient un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est très sympa dans une conversation. En tout cas.
Ah, ça fait son petit effet,
ah oui,
j'imagine.
C'est clair. Alors, en plus, c'est des produits maintenant qu'on trouve vraiment en grande surface. Le maca, c'est une racine qui va être énergisante. Le xylitol est un sucre de bouleau qui permet, qui a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que le sucre traditionnel. Et puis, il a un goût un tout petit peu, je dirais, mentholé comme ça. Et on peut, alors celui-là, on peut presque le doser comme un sucre blanc. Certains sucres sont un petit peu difficiles à doser, comme la stevia, où il faut vraiment mettre à peine, sinon c'est immangeable. Autant le xylitol, ça ressemble à peu près à, pour une recette traditionnelle, vous mettez à peu près la même quantité.
Et puis là, en plus, il prévient même les caries, ce xylitol.
Oui, alors il a, alors c'est assez, ça peut être un peu paradoxal, mais il a un effet de protection et de protéger les dents.
Alors, Anita Lalubi, on est dans la période la plus gourmande de l'année, on va pas se mentir. Hein. Pour le dessert du réveillon, on a des amis qui sont stressés, donc on veut leur faire du bien. Et puis, on en a d'autres qui sont intolérants au lactose, au gluten. Qu'est-ce que vous nous proposez comme dessert pour un menu festif ?
Alors, pour un dessert, l'idée peut-être pour les fêtes, où on va commencer par Noël, je dirais de faire une bûche de Noël avec les desserts que je propose. On peut acheter maintenant dans différents magasins des gouttières, ce qu'on appelle, c'est comme pour mouler des bûches. Donc vous avez par exemple, pour utiliser les boudoirs, le biscuit cuillère, au lieu de faire des boudoirs, vous faites un biscuit. Sur en forme de rectangle, et on peut l'utiliser comme un biscuit roulé. Et dedans, mettre une mousse au chocolat et puis herbe de blé, par exemple. On peut également couler la mousse dans la gouttière et puis faire, en guise de socle, le... Comment on appelle ça ?
Un brownies peut-être ?
Le brownies en bas, on peut mettre le fondant aussi en bas. Il y a pas mal de... Toutes les recettes, on peut utiliser comme socle.
Donc après, il faut avoir un peu d'imagination et puis imaginer visuellement ce que ça peut donner.
Oui, de le recomposer. Et puis, le dites pas à vos convives, que vous verrez.
Et puis moi, dans ce livre, alors, il y a toutes ces recettes qu'on peut donc adapter en donnant des formes différentes, par exemple, pour un soir de Noël. Mais il y a toujours des petites astuces et puis l'influence que les produits utilisés peuvent avoir sur notre humeur. C'est pas simplement un livre de recettes, ça va un peu plus loin.
Oui, l'idée c'est vraiment de combiner les deux, parce que de toute façon, étant donné qu'on est constitué, puis on va prendre l'énergie de notre vitalité finalement dans ce qu'on va consommer, alors autant le soutenir et puis lui donner des petits coups de pouce en fait.
Les recettes du bonheur, c'est donc ce livre qui est paru aux éditions Favre, a peut-être à glisser sous le sapin de tous ceux qui se désespèrent parce qu'à cause de leur intolérance au gluten ou au lactose, ils ont l'impression de ne plus pouvoir se faire plaisir comme avant. Anita Lalubi, merci beaucoup d'être venue partager quelques-unes de ces recettes et un peu de bonheur avec nous ce matin.
Merci beaucoup.